Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 Avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Et tous les jours que Dieu fait, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est un ordre que Dieu m'a donné. Il a dit, soyez toujours joyeux. Et comme c'est un ordre, alors j'obéis à cet ordre chaque jour. Ça veut dire que quand Dieu donne un ordre, si je n'obéis pas, je désobéis. En d'autres termes, les gens qui ne sont pas dans la joie, ils pêchent. Oui, alléluia. Il a dit, soyez toujours joyeux. C'est un ordre, c'est un commandement. Donc, si je ne suis pas dans la joie, je pêche. C'est la vérité, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je dois me débrouiller tous les jours de ma vie à être toujours dans la joie. Dieu, excusez-moi, mais permettez-moi l'expression, Dieu s'en fout de vos problèmes. Dieu s'en fout de vos difficultés, de vos Seigneur. Dieu s'en fout. Il dit, soyez joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour être joyeux. Donc, vous devez vous débrouiller à être joyeux. Oh, alléluia! Vous devriez vous débrouiller à être joyeux. Parce qu'en nous, il y a la semence de Dieu, il y a la semence de la joie. Et Dieu s'étonne. Il s'étonne, il dit, mais comment ça se fait-il que dans la vie de mon fils, j'ai mis ma nature? Dans la vie de ma fille, j'ai mis ma nature. Et moi, je suis un Dieu joyeux. Je ne suis pas, je suis pas dans la joie. Dieu n'a pas la joie. Dis à ton frère, Dieu n'a pas la joie. C'est vrai que quand je lui dis ça, il est un peu étonné. Comment Dieu n'a pas la joie? Mais tout simplement parce que lui-même, il est la joie. Donc, c'est lui, c'est la nature même de Dieu, la joie. Et comme nous sommes en train de parler de la nature divine, alléluia, notre Dieu est un Dieu joie. Il est amour, il est paix, il est joie. Quand il a soufflé dans les narines de l'homme, il a fait... Et déclare que l'homme est devenu une âme vivante. Il a soufflé. Comme il est joie, il a soufflé. La joie est venue. Dans la nature, la joie est en nous. Et Dieu s'étonne que nous ne soyons pas dans la joie. Il est étonné. Il dit, mais ils ont ma nature en eux. Ils ont la joie. Ils ont la paix. Mais pourquoi ils sont dans le trouble? Pourquoi ils sont toujours inquiets? Pourquoi ils ont des problèmes? Il est étonné. Alors quand vous criez là, Seigneur, il s'en fout. Parce qu'il a tout donné, dit la parole de Dieu. Il a donné tout ce qui contribue à la vie est en nous. Alléluia. Même les anges sont choqués. Quand ils nous regardent comme ça, mais comment... Avec tout ce qu'il a là, mon Dieu, si Abraham avait ça, si Isaac avait ça, si Jacob avait ça, mais comment même Isaac, Jacob, Abraham, Moïse, qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, tous les jours, se débrouillaient pour être dans la joie. Mais lui, il a le Saint-Esprit. Abraham a désiré plonger ses regards dans ce qu'il a aujourd'hui, mais il n'a pas pu. Isaac a désiré plonger ses regards dans ce qu'il a obtenu aujourd'hui, mais il n'a pas pu. Jacob a désiré plonger ses regards dans ce que mon fils et ma fille aujourd'hui a dans la Nouvelle Alliance, mais il n'a pas pu. Esaïe, le grand prophète, a désiré plonger ses regards dans ces choses, mais il n'a pas pu. Parce que le Saint-Esprit avait été donné pour la promesse de la Nouvelle Alliance au travers du sacrifice de Christ à la croix. Mais nous aujourd'hui, nous avons reçu cette promesse et nous ne pouvons pas être dans la joie. Mais pourquoi? Dieu est étonné. Les anges sont étonnés. Et moi, je m'étonne aujourd'hui. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Moi, je m'étonne aujourd'hui. C'est pour cela que ce matin, Dieu veut nous parler de l'espérance. Alléluia. Chaque jour, je suis fatigué de voir les gens qui sont tristes. En fait, moi-même, je n'ai pas de problème. Mais mon problème, c'est de voir les gens qui sont dans les problèmes. Ce qui m'attriste le plus, ce n'est pas que j'ai des problèmes. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir le peuple de Dieu souffrir. Et si je prie, si je chante, c'est pour que Dieu aide son peuple. Et chaque jour, je m'efforce à entretenir mon espérance. Et ce matin, j'aimerais aider le peuple de Dieu à savoir comment entretenir son espérance. Alléluia. Parce que Dieu est étonné de voir que nous sommes tristes. Il est étonné de voir, les anges sont choqués. C'est pour cela que nous voulons chanter. Il est bon de louer Dieu. Quelles que soient les circonstances, il est bon de louer Dieu. Même si quelqu'un t'a abandonné, même si quelqu'un t'a déçu, même si quelqu'un a brisé ton cœur, ta vie ne dépend pas de cette personne. Ta vie n'est pas attachée à cette personne. Ta vie n'est pas attachée aux circonstances. Même s'il pleut, même s'il neige, c'est l'été. Il neige pas. Mais même s'il neige pendant l'hiver, même s'il pleut, je loue mon Dieu. Même s'il fait chaud, je loue mon Dieu. Parce que ma vie ne dépend pas de quelqu'un ni des circonstances. Alors, je veux louer mon Dieu. Il est bon de louer le Seigneur. Je vais appeler le pasteur Nina. Avec les chantres. Alléluia. Elles vont entraîner dans ce cantique. Il est bon. Et tu enchaînes avec. Quand je vois la bonté de mon Dieu. Parce que la joie qui est dans mon cœur, là, j'ai envie de l'exprimer. Et je vais vous montrer comment chaque jour de ma vie, je loue, quelles que soient les circonstances, je loue le Seigneur. Devant le mur de Jéricho, le peuple de Dieu a loué le Seigneur. Le mur de Jéricho, je t'assure que ton problème, c'est rien devant le mur de Jéricho. Donc, ça veut dire que même si ton problème, c'est un mur de Jéricho, loue le Seigneur. Maintenant, si tu mesures ton problème, tu le places à côté du mur de Jéricho. Tu prends le mètre, tu mesures. Et tu trouves que ton problème n'est rien devant le mur de Jéricho. Oh, ma soeur. Assieds-toi seulement et ris. Alléluia. On va louer le Seigneur.
Alléluia.
Amen.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin que je me ris de mes difficultés?
Amen.
Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré.
Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur?
Gloire à Dieu.
Yeah.
Woo! Alléluia. Loue le Seigneur.
Alléluia.
Avec conviction, avec force.
Alléluia.
Exprime ta joie ce matin.
Alléluia.
Avec des acclamations, avec des cris de joie.
Il est bon de louer Dieu.
Exprime ta joie avec des pas de danse.
Louons-le.
Il est bon de louer Dieu. Louons-le.
Invoque-le seulement. Non, 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 non.
Quand Dieu est là, invoque-le. Alléluia, louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Non, non, il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de panique? Ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Alléluia. 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 Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là. Invoque-le. Wouh! Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Wouh! Oui, ainsi l'entrée de ma maison.
Alléluia!
Mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prie sur la toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prie sur la toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prie sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prie sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prie sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. 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 Mon âme bénit l'éternel.
Quand je vois la bonté de mon Dieu,
prie sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prie sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prie sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit.
Confesse-le de tout ton cœur.
Mon âme.
Commence à voir les murs de Jéricho tomber dans ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres ce matin, proclame que ton âme bénit l'éternel. Commence à voir les murs de Jéricho tomber devant toi. Commence à voir la maladie lâcher prise. Commence à voir les démons s'enfuir. Commence à voir la victoire de Christ éclater devant toi.
Mon âme bénit l'éternel. 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 Mon âme bénit l'éternel.
Wouh! Alléluia! Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Et pendant que tu acclames le Dieu vivant d'Israël, proclame des paroles prophétiques sur ta vie. Proclame des paroles prophétiques sur ta famille. Pendant que tu acclames le roi des rois, proclame des paroles prophétiques sur ton avenir. Proclame des paroles prophétiques sur ta destinée. Pendant que tu acclames le Seigneur, proclame des paroles prophétiques sur tes enfants. Pendant que tu acclames le Seigneur, proclame des paroles prophétiques sur ton père. Proclame des paroles prophétiques sur ta mère. Proclame des paroles prophétiques sur tes frères. Proclame des paroles prophétiques sur tes sœurs. Proclame tes paroles prophétiques. Déclare les choses
que tu veux voir Dieu amener dans ta vie. Déclare des choses dans le nom de Jésus. Nous parlons de la foi. La foi appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Parle aux situations dans ta vie. Parle aux situations difficiles dans ta vie. Parle aux situations difficiles dans ta maison. Pendant que tu acclames le Seigneur, les murs de Jéricho sont en train de tomber. Alléluia. 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 L'espérance est pour moi ce matin. La destinée. Il y a une espérance pour ma vie. Il y a une guérison pour mon frère. Il y a la bonne santé. Alléluia. Il y a l'espérance pour moi ce matin. Il y a un emploi pour quelqu'un ce matin. Il y a une destinée pour quelqu'un ce matin. Il y a une espérance qui est attachée à ton avenir ce matin. Il y a la vie pour toi, Seigneur. Agis dans le cœur. Alléluia. Il y a la faveur de Dieu sur ta vie ce matin. Il y a la bonne santé devant la porte de ta vie ce matin. Wouh! Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi ce matin. Il y a de l'espérance pour toi, ma soeur. Il y a de l'espérance pour toi, femme stérile. Toi qui n'as point enfanté, entends les cris des enfants qui pleurent. Entends les cris des enfants qui pleurent. Il y a de l'espérance pour toi ce matin. Il y a de l'espérance pour toi, ma soeur. Alléluia. Il y a de l'espérance pour toi, mon frère. Il y a de l'espérance pour ta femme. Il y a de l'espérance pour tes enfants. Il y a de l'espérance pour ta destinée. Là où les médecins ont dit qu'il n'y a plus d'espérance, et si par l'Éternel sur ta vie, il y a encore de l'espérance. Là où les hommes ont décrété la mort, entends la voix du bon berger. Il te dit ce matin encore, il y a la vie pour toi, ma soeur. Alléluia. Prends courage, mon fils, car j'ai vaincu la mort. Prends courage, ma fille, car ton enfant vivra. C'est moi qui ai ressuscité Lazare. Il était mort depuis 4 jours. Les hommes ne pouvaient plus espérer quoi que ce soit, car ils sentaient déjà. Mais moi, je suis venu devant le tombeau de Lazare, car je suis la résurrection et la vie. Et j'ai dit, Lazare, sors! Et je viens devant ta vie ce matin. Même si ta vie est dans le cimetière, je suis la résurrection et la vie. Et je viens te dire, sors! Là où les hommes t'ont condamné, je suis celui qui pardonne. J'apporte l'espérance dans ton cœur. Et je te dis, tes péchés sont pardonnés. Alors si tu crois en ces paroles, tu peux lever tes mains vers mon ciel. Et j'ouvrirai sur toi les écluses des cieux. Je répandrai la grâce en abondance. Alors tu rentres dans le règne de la foi. Et tu saisis ces paroles. Et tu dis, je reçois, Seigneur. Ce message est le mien ce matin. Je reçois ce message pour moi. Je reçois ce message pour mon père. Je reçois ce message pour ma mère. Je reçois ce message pour mes enfants. Je reçois ce message pour mes soeurs. Je reçois ce message pour mes frères. Je reçois ce message pour ma famille. Car tu as dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu es le Dieu de la vie. Tu n'as point changé, oh Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Chokorababababaseka. Tu réveilles l'espérance de quelqu'un ce matin. Tu propulses sa foi dans une dimension d'espérance. Alléluia. Une espérance qui ne trompe point. Une espérance qui n'est point celle des hommes. L'espérance de Dieu ne trompe point. Alléluia. Acclamons le roi des rois pour sa présence. Acclamons-le encore, acclamons-le encore, acclamons-le encore, acclamons-le encore, de tout notre cœur. Parce qu'il en est digne. Il est Dieu. Il est le souverain des rois de la terre. Nul n'est comparable à lui. Il est celui qui monte sur un cheval blanc et qui avance en vainqueur pour vaincre. La Bible déclare que de ses yeux sortent des flammes de feu. De sa bouche sort une épée plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ses pieds sont comme les raies ardents. Comme si Jésus était embrasé dans une fournaise. Lorsqu'il parle, la nature se tait et l'exécute. Il est Dieu. Et c'est lui qui va parler sur ta vie ce matin. C'est lui qui va parler sur tes situations ce matin. C'est lui qui va changer ta vie, ta destinée ce matin. Alors dispose simplement ton cœur et reçois le message de la foi. Et je reçois au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous rasseoir dans sa présence. Merci au groupe Louange. Alléluia. Merci Seigneur. De ton frère, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la nature divine, de la nature de la déité. Nous parlons de la nature que Dieu nous a donnée depuis le commencement, lorsqu'il nous a créés, et que nous avions perdu à cause du péché. Mais par le plan rédempteur de Dieu, au travers de Jésus-Christ à la croix, il a pourvu un moyen pour nous aider à retrouver cette nature. Et nous sommes en train de voir comment retrouver la nature divine, comment opérer dans la nature divine, dans la dimension divine, chaque jour de notre vie. Comment vivre et comme étant des êtres divins et non des êtres humains. Même si nous sommes des êtres humains, mais comment vivre comme des êtres divins? Car Dieu nous considère plus comme des êtres divins que comme des êtres humains. Voilà pourquoi il nous appelle ses fils, car il est Dieu et nous sommes ses fils, ses enfants. Nous avons sa nature, nous sommes en d'autres termes des êtres divins. Nous avons vu la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie, nous avons vu la loi de la foi. Et nous sommes en train d'étudier la loi de la foi. Dans la loi de la foi, nous avons parlé du pouvoir de la perception, nous avons parlé du pouvoir de la connaissance divine. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'espérance. Parce que Hébreux chapitre 11 nous dit qu'il y a cinq dimensions dans la foi. Il y a la foi qui nous permet de percevoir les choses qu'on ne voit pas à l'œil humain. Il y a la foi qui nous permet effectivement d'être affermis. C'est au travers de la connaissance. Il y a la foi qui nous permet d'espérer. Il y a la foi qui nous permet d'avoir l'assurance. Il y a la foi qui nous permet d'entrer dans la démonstration. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce troisième aspect, la foi qui nous permet d'entretenir une espérance, pas n'importe quelle espérance, une espérance qui vient de Dieu. Parce que voyez-vous, il y a une différence entre l'espérance humaine et l'espérance de Dieu. L'espérance des hommes périt toujours, mais l'espérance de Dieu, selon Romains chapitre 5, verset 5, elle ne trompe point. Elle n'est point une espérance utopique, c'est une espérance réelle. C'est une espérance qui repose sur la vérité de Dieu. Et lorsque nous entretenons cette espérance, la Bible déclare que nous ne sommes point confus, nous ne sommes point dans l'illusion, nous ne sommes point dans l'utopie, nous sommes dans quelque chose de sûr. Alors, Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et lorsque je cherche un petit peu le mot espérance, qu'est-ce que ça veut dire? Le dictionnaire me dit que l'espérance, c'est une disposition de notre âme qui nous porte vers notre avenir. Alléluia. Une disposition de mon âme
une condition, une disposition de mon âme qui me porte vers mon avenir et qui me pousse à croire sans avoir une preuve, qui me pousse à croire sans aucune preuve à l'acquisition d'un bien à venir ou à la réalisation d'un projet dans lequel je suis engagé. Ça veut dire que si je n'ai pas d'espérance, j'aurai du mal à vivre, j'aurai du mal à travailler, j'aurai du mal à réaliser mes projets. Si je manque d'espérance, j'aurai du mal à me porter vers mon avenir. S'il me manque d'espérance, c'est comme une voiture qui manque de carburant. J'aurai du mal à marcher, j'aurai du mal à aller plus loin dans ma vie. Alors si je n'ai pas d'espérance, je serai comme une voiture qui n'a plus de carburant et je vais rester sur place stationné. Et ma vie sera une routine, ma vie sera monotonie, ma vie ne va pas être gaie, ma vie ne va pas être épanouie. Je vais, jour après jour, être triste et je vais commencer à penser et à dire, comme certaines personnes, que la vie est méchante, la vie n'est pas belle, la vie n'est que tristesse. Et pour certains, n'en pouvant plus, alors ils se sont donné la mort, ils se sont suicidés. Voilà pourquoi, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se suicident aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont perdu l'espérance. Et de plus en plus que notre monde évolue, dans notre société aujourd'hui, nous rencontrons de plus en plus même des jeunes à la fleur de l'âge qui se suicident. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont perdu l'espérance. Je m'étais dit ce matin que quel que soit le problème que tu traverses, bats-toi pour garder ton espérance. Parce que si tu perds l'espérance, tu ne pourras pas vérifier si les promesses que Dieu a faites pour toi, pour ton avenir, sont vraies. Alors tu as besoin de garder l'espérance pour vérifier dans l'avenir que ce que Dieu dit à ton sujet est vrai. Parce que si tu n'as plus l'espérance, tu ne pourras plus vivre, tu vas mourir. Mais comment pourrais-tu vérifier effectivement que ce que Dieu a dit à ton sujet est vrai? Tu as besoin de vivre. Dis à ton frère, tu as besoin de vivre. Alors bats-toi pour vivre. Notre société aujourd'hui, particulièrement en Europe, en France, en Occident, nous sommes parmi les pays où le taux de suicide est le plus élevé. Les gens se suicident à la fleur de l'âge. Pour une déception amoureuse, une jeune fille se suicide. Se donne la mort. Pour un problème d'endettement, il n'arrive plus à régler ses factures. Quelqu'un se suicide parce qu'il n'en peut plus. Il a les dettes jusqu'au cou, il ne peut plus tenir, alors il se donne la mort. Pour un problème d'honneur, une question d'honneur, quelqu'un est capable de se suicider. Tout simplement parce qu'il a perdu une étoile. Vous savez de qui je parle. Il y a quelqu'un qui était un grand cuisinier, qui s'appelait Bernard Loiseau. Parce qu'il a perdu une étoile, il s'est donné la mort. Pour une question d'honneur. Il y en a qui se suicident parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Comme ils n'ont pas d'enfants, alors leur vie n'a plus de sens. Il y en a qui se suicident tout simplement parce que ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de travail. Comme si le travail était la clé de la réussite dans la vie. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, Dieu n'a jamais dit qu'il bénira ton salaire. Parce que vois-tu, le salaire que tu as, c'est le revenu du travail que tu entreprends dans l'entreprise de quelqu'un. Mais quand tu lis la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Donc tu as un travail, que tu travailles dans l'entreprise ou pas, tu es capable de vivre et de vivre heureux. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi un potentiel qui te permet, comme on l'a vu dimanche dernier, de créer de la richesse. Et quand tu vas te mettre à créer la richesse, alors Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Et c'est ainsi que tu commences à devenir riche. Parce que c'est quand Dieu bénit que tu deviens riche, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Mais Dieu bénit pas le salaire. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec ton salaire? C'est ce que tu vas faire avec ton salaire là que Dieu va bénir. Quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire Comment je peux faire pour créer une entreprise? Comment je peux savoir pour créer la richesse? C'est simple. Regarde dans ta vie ce que Dieu a déposé comme talent, comme don. Tu sais chanter? Commence à faire des CD. Dans l'église ici, on est au moins 100 personnes. Si tu as fait un bon CD, que tu chantes bien, 100 personnes achètent ton CD, tu veux 15 euros le CD. 100 personnes, rien qu'ici. Tu multiplies par 15, ça te fait combien déjà? 1500 euros, non? N'est-ce pas? Bon, maintenant, si tu commences à faire la diffusion sur Internet, par-ci, par-là, tu commences à faire les concerts, n'est-ce pas que de 1500 euros, tu peux passer à 5000 euros par mois? Si tu abandonnes ton travail, par exemple, ou bien tu perds ton travail, tu te mets à chanter, tu parcours des villes en ville, les nations, etc., pour chanter pour le Seigneur. Tu vends tes CD. N'est-ce pas? Tu peux gagner plus que quelqu'un qui travaille. Il y a un homme qui a composé un cantique qu'on chante ici. Ce cantique, j'ai oublié l'air. Mais ça va peut-être me revenir. Alors, ce cantique a été composé par un villageois qui habite au Zimbabwe. Un villageois. Pendant qu'il était en train de travailler dans ses champs, et pendant qu'il travaillait pour se redonner un peu de la force, il s'est mis à chanter pour le Seigneur. Alors, une inspiration est arrivée. Il s'est mis à chanter ce cantique. Et du coup, la mélodie a été tellement appréciée que partout dans les églises, on chantait ce chant-là. Et puis un jour, un grand chanteur américain est venu au Zimbabwe. Lors d'une grande rencontre, un séminaire, les églises se mettaient à chanter ce cantique et il a trouvé que c'était très très bien. Il se posait la question, il me dit, c'est à qui ce chant? Qui l'a composé? On l'a dit, c'est un villageois. On l'a mené au village. Il a rencontré le monsieur. Il a dit, monsieur, j'ai un projet, je vais sortir un album. Est-ce que tu pourrais accepter que dans mon album, je puisse mettre ton chant? Le villageois sait que l'album, c'est quoi? Il sait que droit d'auteur, c'est quoi? Il n'y a pas de problème, tant que ça peut bénir le peuple de Dieu, il n'y a pas de problème. Et un seul chant, bien aimé, écoutez, a été travaillé, mixé, remixé. Et ceux qui travaillaient sur le chant, tout ça, il y avait quelque chose de divin dans ce chant. Alors, ils ont sorti le chant et ils ont signé un contrat avec le villageois. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce chant est tellement apprécié et chanté partout que chaque semaine, je vous dis bien chaque semaine, je ne parle pas de moi, chaque semaine, le villageois reçoit dans son compte bancaire, tenez-vous bien, 1000 euros. En fait, 1000 dollars. Bon, si on convertit, ça fait à peu près 1000 euros aussi. 1000 dollars qui sont versés dans son compte bancaire chaque semaine. Alors, prenez 1000 dollars, multiplié par 4 semaines, ça fait combien? 4000 euros versés chaque mois. Il n'a pas bac plus 5. Il gagne plus que quelqu'un qui a bac plus 5 par mois. Pour un seul chant. Un seul chant. Je te pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Regarde ce que Dieu a mis dans tes mains. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Je disais à des personnes dans une assemblée quelque part, je disais, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Éden veut dire la sphère des délices. Et la Bible nous dit que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et la femme pour cultiver la terre, il a pris soin d'alimenter le jardin par quatre fleuves. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Quatre fleuves. Et quand vous lisez dans Genèse, chacun de ces fleuves représente une ressource économique, une ressource de richesse. Dans certains fleuves, il y avait de l'or. Dans d'autres, il y avait des pierres précieuses. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? Quatre fleuves qui longeaient et qui alimentaient le jardin d'Éden. Mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu veut seulement nous dire que dans la vie, vous n'avez pas de raison de vous donner la mort pour un problème quelconque de perdre votre espérance. Parce que vous avez tout autour de vous et au-delà de vous, vous avez tout pleinement. Si vous avez compris le mystère des quatre fleuves, vous devez comprendre une chose. C'est que pour que quelqu'un vive bien sur la terre, qu'il soit dans un jardin de délices, il doit avoir au minimum 4 sources de revenus. Au minimum 4 sources de revenus. Si tu as au minimum 4 sources de revenus, alors tu es en train de te construire autour de toi ton jardin d'Éden. Et les 4 sources de revenus se trouvent dans le potentiel que Dieu a déposé en toi. Alléluia! Tu sais parler. Vous savez, j'ai reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui. Ce matin. En ouvrant ma boîte mail, il y a un site qui publie, qui fait mes publications. Et qui m'a envoyé un mail, il me dit, on veut signer un autre type de partenariat avec toi. Parce que tes messages, tes publications ont été écoutés par plus de 80 000 personnes. Tes publications ont été écoutées plus de 80 000 fois. On veut signer un autre contrat avec toi. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé à voir un quatrième fleuve arriver. Oh, alléluia! J'ai commencé à voir un quatrième fleuve. Bien aimé! Le premier fleuve que j'ai, c'est le salaire que je reçois chaque fin de mois, là où je travaille. Le deuxième fleuve que j'ai, vous l'avez vu, c'est le livre qui est sorti. Le troisième fleuve, je ne vous dis pas encore. Mais quand j'ai lu ça ce matin, j'ai commencé à voir un quatrième fleuve arriver. Oh, alléluia! Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a déposé en vous? On m'a parlé d'une femme aux États-Unis. Elle n'est pas chrétienne. Mais elle a un talent dans l'art oratoire. Et dans la connaissance qu'elle a, elle développe des thématiques qui intéressent toutes les couches sociales. Les hommes politiques, les hommes d'affaires, les scientifiques. Elle a un talent, une intelligence qui l'amène à faire des recherches et à découvrir dans chaque domaine des réponses, des solutions, des formules, des stratégies. Elle n'a que le gnosis. Elle n'a pas l'épignosis. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Elle n'a pas la parole de Dieu avec elle. Donc, elle agit seulement avec le gnosis. Et des milliers de personnes viennent l'écouter. Et quand ces personnes viennent l'écouter, ce n'est pas dans une salle comme celle-là. C'est une salle de milliers de personnes. 10 000 personnes, 20 000 personnes. Et pour entrer, il faut payer. Est-ce que vous comprenez? Tu payes un droit d'entrée pour aller écouter une femme qui parle. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Les gens l'écoutent, ils prennent des notes, ils prennent des notes, ils prennent des notes, ils prennent des notes, ils prennent des notes. Et quand ils repartent là, ils repartent avec des solutions, des formules, des stratégies pour leur entreprise, pour leur commerce, pour leurs affaires, pour leur vie politique, pour leur vie familiale. Et quand ils partent, ils mettent en application et ils sont remotivés parce qu'ils voient des résultats. Et quand on dit encore conférence avec elle, et ils reviennent encore. Elle ne vit que de ça. J'ai envie d'arriver à ce niveau-là, mon frère. Oh, alléluia! Un niveau où je parle seulement. Et les gens ont des solutions à leurs problèmes. Quand tu as ça, mon frère, tu vas encore aller travailler pour quelqu'un, pourquoi? Tu n'as pas besoin. Ton seul souci, c'est de trouver des salles de conférence. Et les gens viendront. Quel talent tu as en tes mains? Est-ce que tu sais bricoler? Je ne sais pas si tu sais bricoler, mais identifie ce que tu sais faire. Quel talent tu as? Je veux dire une chose, c'est qu'en fait, les gens aujourd'hui se donnent la mort pour rien. Pour rien du tout. Parce que Dieu a déposé en nous tout ce qu'il faut pour vivre. Et il l'a dit. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre. Donc, mon espérance est dans le Seigneur. Alléluia! Mon espérance est en Christ. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Quelqu'un est-il à la page? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis à ton frère, il y a de l'espérance dans ton avenir. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous prenons toujours le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 17. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Le premier principe que je vais rétablir ici en parlant de l'espérance, après l'avoir défini, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est que l'espérance s'attache toujours à notre avenir. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Quelqu'un qui est conscient de son avenir a de l'espérance. À partir du moment où nous sommes plus conscients de notre avenir, nous perdons l'espérance. Or, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu a formé pour notre avenir des projets de paix et non de malheur. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir de l'espérance si je ne fais pas de projets. Je ne peux pas avoir de l'espérance si je ne fais pas de projets. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de chrétiens vivent au jour le jour. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus a dit à chaque jour, suffit sa peine, donc on s'en remet au sort. Donc si demain il fait beau, gloire à Dieu, on aura le sourire. Si demain il fait pas beau, alors que la volonté de Dieu soit faite, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit loué. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand tu es conscient que tu as un avenir, tu ne subis plus les circonstances dans ta vie. Quand tu es conscient que tu as un avenir, tu travailles jour après jour à l'accomplissement de ta destinée. Parce que tu es conscient de qui tu es et de quoi Dieu veut faire avec toi, où Dieu veut t'emmener. Tu ne subis plus les circonstances. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui subissent la vie. Beaucoup de chrétiens ne vivent même plus, mais ils survivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent plus leur vie en main. Au départ, je vous disais, débrouillez-vous à être joyeux. Pourquoi je vous disais? Je savais de quoi je parlais. Parce que Dieu a tout mis entre nos mains, il a tout mis en nous pour que nous puissions être heureux sur la terre. Et quand vous lisez la parole de Dieu, chaque jour, il nous donne des commandements. Il dit, soyez heureux, soyez joyeux, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia! Donc, Dieu sait consciemment qu'il ne peut pas nous demander quelque chose qui est impossible. Et s'il nous le dit, c'est parce qu'en nous, il a mis tout ce qu'il nous faut pour réussir notre vie. Mais c'est nous qui devons prendre conscience que nous avons le potentiel nécessaire dans notre vie afin de travailler à l'accomplissement de notre avenir. Alors il nous dit, quand tu prends conscience de cela, tu peux être sûr que ton avenir, dans ton avenir, est attaché à mon espérance. Et dans Romains chapitre 5, verset 5, il nous fait la distinction entre son espérance et l'espérance du monde. Parce que voyez-vous, l'espérance du monde va nous amener à croire à des choses pour entretenir l'espoir. Mais parfois, ces choses ne sont pas réelles. Elles peuvent reposer sur des promesses qui sont illusoires, utopiques. Mais Romains chapitre 5, verset 5 nous dit, l'espérance qui vient de Dieu, l'espérance qui s'attache à notre destinée, cette espérance qui vient de Dieu, elle ne trompe point. Ce n'est pas quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et pour nous montrer notre avenir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne dans sa parole ce qu'on appelle des promesses. Pour connaître ton avenir, il faut lire les promesses de la parole de Dieu. Par exemple, celle qu'on vient de lire. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés pour ton avenir. Donc, quand tu lis cette promesse, tu comprends que, premièrement, tu as de l'avenir. Deuxièmement, donc, tu as des raisons d'avoir espérance parce que tu as de l'avenir en Dieu. Et troisièmement, dans cet avenir, Dieu a projeté des choses. Et les projets qu'il a fait pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais il a projeté des bonnes choses. Il a projeté des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et une autre promesse, par exemple, on va lire dans Ésaïe chapitre 54, verset 10. Ésaïe. 54, verset 10. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Alléluia. Si quelqu'un a la page, il peut lire à haute voix. Ésaïe, 54, verset 10. Tu peux nous afficher ça, mon frère? Nous lisons la parole de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix subsistera dans toute l'éternité, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quand je lis une telle promesse, je n'ai pas de raison d'être triste. Si je ne me sens pas aimé, je n'ai pas de raison de me suicider parce que quelqu'un m'a quitté. Alléluia! Parce que la Bible me dit que quand les montagnes chancelleraient, ça c'est Dieu lui-même qui me parle, quand les montagnes, quand les collines s'éloigneraient, les collines, on peut dire que ce sont les hommes, les gens qui s'éloignent de nous, les séparations, les situations, voilà, les gens que nous aimions, qui s'éloignent de nous, qui nous quittent. Même quand les collines chancelleraient, quand les gens sur qui on s'appuyait, nos supports se brisent, la Bible nous dit, je veux dire, Dieu, le Père, nous dit, son amour ne s'éloignera point de nous. Et son alliance de paix subsistera dans toute l'éternité. Waouh, quand je lis une promesse pareille, pourquoi je vais encore être triste? Pourquoi? Alléluia. Donc l'espérance que Dieu nous donne nous garantit un avenir. L'espérance que Dieu nous donne nous révèle les projets de Dieu pour notre avenir. Si quelqu'un me comprend, qu'il dise Alléluia, Amen. Donc quand j'ai de l'espérance, j'ai toutes les raisons de faire des projets. Quand j'ai de l'espérance, j'ai toutes les raisons de rêver. Beaucoup d'entre nous, on ne rêve plus. Dieu dépose dans nos cœurs parfois des rêves, mais par rapport à la vie, aux circonstances difficiles que nous traversons, tous ces rêves-là sont devenus aujourd'hui des rêves d'enfance. On a mis ça dans les oubliettes. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'en fait, finalement, ce n'était qu'un rêve d'enfance. À cause des difficultés, à cause des problèmes. Mais Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a parlé par sa parole, il t'a parlé par prophétie. Et il t'a dit que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Donc ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de ton attitude. Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses apprendre chaque jour à entretenir ton espérance. Quand tu entretiens ton espérance, alors tu te positionnes dans la dimension de la foi. Et quand tu es dans la dimension de la foi, tu opères dans la sphère divine. Et tu vois des résultats se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi je suis toujours dans la joie. Est-ce qu'on m'avait déjà vu ici triste? Non. Je suis toujours dans la joie. Et puis, il n'y a qu'à voir ma femme aussi. Est-ce que vous la voyez avec l'air d'une femme triste? Non. D'abord, elle est heureuse d'avoir Jésus. En plus, elle est heureuse de m'avoir. Alors. Oh, alléluia! Alléluia! Parce que déjà, Christ en nous, c'est l'espérance, la gloire. Un jour, quand on était encore fiancés, elle m'a envoyé un petit mot. Vous savez, quand on est éloigné, c'est pas évident. Donc, on a toujours besoin d'entretenir l'espérance. Ça, c'est important. Alléluia. Hein, Michael, sa fille au Gabon, là. Hein? Donc, tu appelles, tu comprends? Tu envoies des textos. Il faut entretenir l'espérance. C'est important. Alléluia. Elle a besoin de savoir que tu es toujours là. Même quand tu es absent de corps, elle a besoin de sentir que tu es présent. C'est comme ça avec Dieu. OK? Donc, vous savez, on dit loin des yeux, près du cœur. Hein? Alléluia. Et elle m'envoie un texte, elle m'a dit, parmi tous les dieux, j'ai choisi Jésus. Mais parmi tous les hommes, oh, j'ai choisi Sostel, ma body. Et du coup, mon espérance est revenue. Parce que vous voyez, ça faisait un peu longtemps, j'avais pas reçu de courrier. Vous comprenez? Donc du coup, je me posais un peu de questions. Mais pourquoi elle n'écrit pas? Est-ce qu'elle est trop occupée par les études? Est-ce que un jour le rapide est passé par les parages? Et on est des humains, alléluia. Et c'est normal. Il peut arriver effectivement qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un jour le rapide qui est passé? Mais quand et puis des fois quand on prie le Seigneur, c'est bien, le Seigneur nous rassure et tout. Vous savez, non, il te donne des promesses, comme on l'a eu tout à l'heure, qui te garde dans l'espérance. Ça c'est avec le Seigneur. Mais c'est encore bien quand la personne elle-même te parle, alléluia. Donc j'attendais ce petit mot depuis. Surtout que des fois j'appelle, oh il n'est pas là, oh il n'est pas là, on ne sait pas, oh Seigneur Jésus, il est où là? On acclamons le Seigneur, alléluia. Et puis, un jour, je reçois un petit mot. Voilà, un mail, j'ouvre le mail comme ça, voilà. Parmi tous les dieux, j'ai choisi Jésus. Et parmi tous les hommes sur la terre, c'est toi que j'ai choisi. Waouh! non seulement je trouve en cela une promesse, mais également je trouve en cela en fait l'expression d'une alliance. Et là, il déclare que les promesses de Dieu sont fondées sur l'alliance. Laquelle alliance est bâtie sur de meilleures promesses. Voyez-vous, si les promesses d'un homme sont capables de recréer de la joie et de l'espérance dans mon cœur, à combien plus forte raison les promesses de Dieu? Et ce jour, j'ai retrouvé de la force. La joie, la force est revenue dans mes membres. La vigueur. Et c'est comme ça avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin. Parfois même, il y a des situations où Dieu se fait rare. Il se fait rare. Et il a toujours agi comme ça depuis le temps de nos pères. Quand vous lisez la Bible, même entre Malachie et Matthieu, il y a eu au moins 400 ans, 4 siècles où Dieu n'a plus parlé. Et parfois dans notre vie, il y a des situations où la parole de Dieu se fait rare. Mais au-delà de toute situation, de toute circonstance, même quand Dieu ne parle plus, on a besoin d'entretenir notre espérance. La Bible déclare qu'un peuple sans vision, un peuple sans espérance, est un peuple sans frein. Mais heureux s'il observe la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'absence d'une parole de Dieu, pour moi, la chose qui va me sauver et qui va m'aider à garder mon espérance, c'est la parole de Dieu. Oh, il est écrit, bien-aimé, un peuple sans révélation est un peuple sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Donc, si j'ai pas la révélation, il faut au moins que j'ai la loi. Donc, si j'ai pas la révélation, j'ai pas la prophétie du moment, il faut au moins que j'ai ce qui est écrit. Il faut au moins que, voilà pourquoi il est important, les enfants de Dieu, de noter ce que Dieu vous dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit hier? Qu'est-ce qu'il t'a dit il y a 2 mois? Qu'est-ce qu'il t'a dit il y a 3 mois? Est-ce que tu as consigné cela quelque part? Parce que vois-tu, quand il manque de révélation, quand tu viens à l'église, tu entends que le prophète soutient une bonne parole sur toi, elle ne vient pas. Tu entends qu'un frère parle sur toi, ça ne vient pas. Tu viens à la présence de Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu pries, Dieu ne te parle pas. En ce moment-là, tu as besoin de revoir tes notes. Tu as besoin de relire ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Parce que vois-tu, parfois Dieu ne parle pas pour parler, car Dieu n'est pas un bavard. Mais il veut que nous puissions nous-mêmes entretenir notre espérance par ce qu'il nous a déjà dit. Alors en ce moment, nous avons besoin de relire nos notes, de revoir ce qu'il nous a dit et de nous ressourcer dans sa présence. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc l'espérance repose sur les promesses. L'espérance repose aussi sur les alliances, sur l'alliance qu'on a faite avec Dieu. On peut lire ça dans Hébreux chapitre 8, verset 6, que notre espérance, notre vie est fondée sur une nouvelle alliance, laquelle alliance est bâtie sur les meilleures promesses. Hébreux chapitre 8, verset 6. Voyez-vous, l'espérance aussi s'attache à notre appel. L'espérance s'attache aussi à notre appel. C'est-à-dire que quand je suis conscient de mon appel, j'ai des raisons de garder l'espérance. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et l'apôtre Paul prie même pour que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi à l'espérance. Dis à ton frère qu'il y a un ennemi à ton espérance. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, verset 18, il dit, je prie Dieu, le Père de gloire, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Alléluia. Donc, l'incrédulité, le doute sont des ennemis à l'espérance. Dans les circonstances difficiles, de troubles, de confusion, et même de silence où la parole de Dieu se fait rare, le doute va venir dans ton cœur. L'incrédulité voudra naître. Mais l'apôtre Paul dit, en ce moment, il faut prier pour que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu réalises quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur ta vie. Et quand tu lis le mot appel, ça veut dire vocation. Vocation, ça veut dire quelque chose qui est attaché à une mission. Une mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Et à cette mission sont attachées aussi des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques sur la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aussi longtemps que tu seras sur la terre sans avoir encore accompli les choses pour lesquelles Dieu t'a destiné sur la terre, Dieu se débrouillera à te garder encore en vie pendant longtemps afin que tu accomplisses ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. C'est pour cela qu'il t'écrit que non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, vous devez acclamer le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça, c'est une promesse qui s'attache à une espérance de notre appel, à une espérance de notre avenir, à une espérance de notre destinée. C'est pourquoi moi je crois que je ne mourrai pas avant 120 ans. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Même quand je reçois des messages comme ce matin, je dis Seigneur, ce n'est que le commencement parce que la vision que tu m'as donnée, la perception que j'ai eue, je n'ai même pas encore accompli le quart. Donc, Dieu se débrouillera à me garder encore en vie longtemps. Et ça ne concerne pas que moi parce que je suis pasteur. Non, ça concerne tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque, dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans chacune de nos vies, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Il y a un appel, il y a une vocation. Et tu ne pourras jamais mourir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas et il ne voudra jamais que tu meurs sans avoir accompli ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, après, ça dépend de comment toi-même tu te positionnes par rapport à cette volonté-là. Il a dit que lorsque tu n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà choisi. Et sur mon livre de vie, étaient inscrits tous les jours qui t'étaient destinés sur la terre. Avant même qu'aucun d'entre eux n'existât. Est-ce que tu comprends cela? Donc, Dieu a déjà placé dans ta vie un plan. Et il sait ce que tu deviendras demain. Mais c'est vrai que dans ce parcours sur la terre, il y a des zones de turbulence, il y a des zones d'incertitude, de doute, il y a des zones où on ne voit pas. C'est là où c'est important le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique intervient à ce niveau-là pour donner l'espérance, pour donner la confiance, pour rappeler les promesses de Dieu pour toi, pour donner une forme à ton futur. C'est là où c'est l'importance, effectivement, toi-même de vivre la dimension prophétique. Parce que mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur des armées. Et c'est aussi important pour toi de lire la parole de Dieu quotidiennement. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, Dieu te rappelle ses promesses. Et dans ces moments de trouble, ces moments de difficulté, tu te rends compte effectivement qu'il y a encore de l'espérance pour ta vie. Tu n'as pas encore accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il a préparé pour toi des œuvres d'avance afin que tu les pratiques. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pratiqué ces œuvres, Dieu se débrouillera à te garder encore en vie sur la terre. Alléluia! Ça, c'est l'espérance qui s'attache à notre vocation. Ça, c'est l'espérance qui s'attache à notre destinée, à notre appel. Et si je prends conscience de mon appel, alors j'entretiens mon espérance. Il y a aussi une espérance qui est attachée à la gloire à venir. Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ça veut dire qu'il y a une espérance d'aller un jour dans la gloire céleste. Dieu nous promet d'entrer dans sa gloire un jour. Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père, je m'en vais vous préparer une place afin que quand la place sera préparée pour chacun d'entre vous, je revienne vers vous et que je vous prenne avec moi afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. C'est une promesse. Donc il y a une espérance qui s'attache au-delà. Qui s'attache à la vie au-delà de la terre, à la vie au-delà de la mort. L'espérance de vie, de la vie éternelle dans le ciel. Et c'est important de savoir que lorsque j'aurai fini ma mission sur la terre, quand j'aurai accompli ma mission comme l'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course, je repartirai et là-bas, il y a une place qui est préparée pour moi et je régnerai dans la gloire avec mon Dieu. C'est important de garder cette espérance parce que c'est l'espérance du salut. Si je perds l'espérance du salut, alors je perds les raisons de vivre ma vie chrétienne. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient même plus à l'espérance de la gloire à venir. Ils vivent une vie terrestre. Ils regardent à ce qui est sur la terre et toute leur vie, leur vision est focalisée sur ce qui est sur la terre. Or, Jésus a dit, regardez à ce qui est en haut, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Regardez aux trésors, aux richesses qui sont dans le ciel, où les voleurs ne peuvent percer et dérober. Et beaucoup d'églises aujourd'hui ont perdu l'espérance du salut, de la vie éternelle dans le ciel. Et ils sont focalisés sur l'espérance de la terre. Mais parce que nous avons nos regards focalisés sur la terre, alors toutes les circonstances de la terre, quand elles viennent contre nous, elles nous accablent, eh bien nous avons donc des raisons effectivement de mettre fin à notre vie sur la terre. Parce que nous pensons que notre vie s'arrête sur la terre. Non, ma vie ne s'arrête pas sur la terre. Et rien sur la terre ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Serait-ce la nudité? Non. Serait-ce la faim? Non. Serait-ce les tribulations, les angoisses, les frayeurs? Non. Même pas un ange, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Même si je n'ai rien à manger, je continuerai à vivre parce que dans mon cœur, j'ai l'espérance d'aller un jour au ciel. J'ai des raisons de vivre. Alors je garde mon espérance. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, vivant dans l'abondance, vivant dans l'indigence, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la nudité, ce n'est pas un problème. Dans le péril, ce n'est pas un problème. Mais je garde l'espérance, la gloire à venir. Si tu appelles l'espérance, la gloire à venir, tu n'auras même plus envie de venir à l'église. Si tu appelles l'espérance, la gloire à venir, ça veut dire que tu as perdu l'assurance du pardon de tes péchés. Tu as perdu la conviction que Dieu t'a pardonné. Tu as perdu la conviction que Jésus-Christ est dans ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui repartent dans le monde. Pourquoi? Parce que ces personnes ont perdu l'espérance de la gloire à venir. Alléluia. L'espérance soutient dans les temps de malheur. Vous lirez ça dans Job chapitre 5, verset 16. Job chapitre 5, verset 16. Dans les temps de malheur, nous avons besoin d'entretenir notre espérance. Pourquoi? Parce que dans les temps de malheur, dans les temps de difficulté, la Bible nous dit que l'espérance soutient le malheureux. C'est un fondement, c'est une base. C'est un socle. Que si j'ai planté ça dans ma vie, quel que soit ce qui peut arriver, même s'il y a des situations que je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? Seigneur, pourquoi? Pourtant, tu as parlé sur ma vie. Pourtant, tu as dit telle chose. Pourtant, il y a tel prophète qui a même confirmé. Pourtant, un jour, je priais, tu m'as même donné une promesse. J'ai même fait un songe où tu m'as même toi-même parlé. Mais pourquoi finalement, telle chose m'arrive? Si tu as l'espérance comme fondement dans les temps d'épreuve, cette espérance va te soutenir. Et tu ne pourras pas abandonner la foi. L'espérance donne une longue vie. Waouh! L'espérance donne une longue vie. Job chapitre. Non, Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Est-ce qu'on peut le lire? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est fort. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc aussi longtemps que je vivrai, il y a de l'espérance pour ma vie. Alléluia. Et il dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, imaginez-vous, le lion, c'est le roi des animaux. Le lion, c'est l'imbattable. Le lion, le roi des animaux. C'est-à-dire que si un lion meurt, ça veut dire qu'en fait, ce lion a perdu l'espérance. En ce moment-là, même un chien vaut mieux que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toi, enfant de Dieu, Dieu te considère comme un lion. C'est-à-dire que tu es un héros, comme on l'a vu. Tu es un jeune lion. Le Seigneur a dit qu'en fait, nous qui sommes issus de la tribu de Judas, Judas sera un jeune lion. Parce que le lion, c'est l'incarnation de l'autorité. C'est l'incarnation de la puissance. C'est l'incarnation du règne. De la royauté. Et nous sommes l'incarnation de la royauté. Nous sommes l'incarnation du règne. Mais la Bible déclare que si nous perdons l'espérance, même un chien vaut mieux que nous. Alléluia. Donc, j'ai des raisons d'entretenir mon espérance. En tant que lion, en tant que roi. Et je dois comprendre que que aussi longtemps que je garde mon espérance, que je l'entretiens, je vivrai longtemps. Parce que l'espérance nous donne une longue vie. Et je vais terminer en vous donnant ce verset. Proverbe chapitre 10, verset 28. Ah, vous allez comprendre pourquoi j'ai chanté au début. Proverbe chapitre 10, verset 28. Il dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire? Si quelqu'un a la page qu'il lise à haute voix. Ça, c'est une autre version, certainement. Tu nous remets la version Luc II, s'il vous plaît. La version Luc II dit, l'attente des justes, c'est-à-dire que l'espérance des justes, l'attente des justes n'est que joie. Mais l'espérance des méchants périt. Déjà ici, le Seigneur nous fait la différence entre l'espérance des méchants, l'espérance des hommes et l'espérance de Dieu. L'espérance des hommes périt toujours. Mais l'espérance de Dieu ne périt jamais. Et là, Romains chapitre 5, verset 5 nous dit, nous confirme. Mais encore bien mieux, l'espérance de Dieu en nous, nous apporte la joie. Pourquoi? Parce qu'on a défini l'espérance comme étant une disposition de cœur qui nous porte vers notre avenir et qui nous amène à croire avec ferveur, avec conviction, l'acquisition d'un bien à venir ou la réalisation d'un projet d'avenir. Donc, même si je n'ai pas encore la chose, j'exulte déjà de joie. Alléluia! Parce que je la perçois, je la vois arriver. Alléluia! Donc, l'espérance aussi est attachée à la perception. Quand je perçois quelque chose dans mon esprit, mon cœur exulte déjà de joie dans l'attente de la réalisation de cette chose. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Je perçois, je vois avec les yeux de l'esprit, et mon cœur exulte déjà de joie. Et chaque jour, je chante. On me pose la question, mais pourquoi tu chantes? Parce que j'aurai des enfants. Pourquoi tu chantes? Parce que je viens de trouver du travail. Mais tu ne travailles pas? Oui, mais j'ai vu le travail. Alléluia! Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu es content? Parce que je suis délivré. J'ai vu mes ennemis fuir devant moi. Ils sont rentrés par un seul chemin. Ils se sont enfuis par sept chemins. Mais pourtant, apparemment, tu es encore oppressé par les démons. Oh! Ça, c'est ce que l'homme voit. Mais moi, ce que je vois, je t'assure, ils ont fui par sept chemins. Pourquoi tu es dans la joie? Parce que mon enfant est guéri. Mais il est encore sous perfusion. Oh, ça c'est ce que tu vois. Mais ce que je vois, il est guéri. Et alors je chante déjà de joie parce que je sais que la guérison va se manifester dans son corps. Alléluia! Et comme l'espérance ne trompe pas, ce que j'ai vu ne me trompe pas. C'est la vérité. Ce que vous voyez, c'est la réalité. Vous restez dans la sphère, la réalité. Moi, je m'en vais dans la sphère de la vérité. Alléluia! Donc, quand j'entretiens mon espérance, je suis dans la joie. Frère, pourquoi tu es dans la joie? Oh, parce que j'ai déjà vu la chair de ma chair, l'os de mes os. Ne posez pas la question à Arcelin, parce qu'elle a déjà eu. Alléluia! Son espérance, ce n'est plus de voir. Son espérance, c'est là, c'est varié, hein? Vous comprenez? Vous n'avez pas les mêmes espérances en ce moment. Alléluia! Par contre, ceux qui ne sont pas encore fiancés, vous pouvez exulter de joie parce que dans votre esprit, vous pouvez percevoir. Oh, mon frère, dès que tu vois quelque chose. Il y a des amen et des yes qui trahissent. Alléluia! C'est pour ça que vous allez voir dans la vie, il y a des gens qui sont toujours heureux, bien habillés, contents. Qu'il pleuve ou neige ou fasse grand vent, qu'il y ait des problèmes ou pas, il est toujours content. Ça dépend de ce qu'il voit dans son esprit. Dans ce qui, son espérance est tellement grande qu'il est dans la joie. Même s'il n'a pas la chose, il est dans la joie. Et c'est le secret de l'épanouissement. Il est comme un olivier verdoyant. Bien-aimé, ça c'est ce que je vis tous les jours et j'essaie de vous enseigner cela. Ce n'est pas de l'insouciance, non. C'est de l'espérance. Même si tout se termine en anse, mais l'insouciance n'est pas l'espérance. Mon espérance m'amène à la danse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que je danse parce que je suis dans la joie de mon espérance. Et c'est ce que Dieu attend de nous chaque jour de notre vie, que nous puissions danser de joie, que nous puissions vivre vraiment comme des hommes libérés, heureux. Parce que c'est ça la foi, c'est la troisième dimension de la foi. Il y a un frère ici que j'aime beaucoup, bien aimé. Oh, je l'ai surnommé Happy Man. Est-ce que vous imaginez qui c'est? Grégory, alléluia! Il est toujours dans la joie, bien aimé. Tu ne peux pas savoir s'il y a des problèmes. Même quand il vient chanter ici, vous êtes triste, lui, ce n'est pas son problème. Il s'en fout. Il est comme Dieu. Il s'en fout des circonstances. Il danse, il chante ici. Vous n'avez pas encore vu ça? Vous êtes silencieux là, lui, il est parti. Il se retourne vers les chants, il dit, on y va. Tel chant, il est parti. C'est ça l'espérance, alléluia. Mais quand vous êtes comme ça, les gens vont vous trouver des bizarres. Mais ce n'est pas grave, c'est des hommes. Vous, vous êtes comme des dieux, vous vivez la nature de Dieu. Voilà pourquoi ils vous trouvent bizarre. Vous avez revêtu la nature divine. Dans votre lieu de travail, quand vous arrivez, les gens sont tristes parce qu'il y a la crise financière. Vous vous exultez de joie. Parce que même avec moins 5% du salaire, tu vis en abondance. Dans l'abondance. Alléluia! Et le collègue qui m'a dit que moi, ce que j'aime avec toi, c'est qu'il n'y a jamais aucun problème chez toi. Tu es toujours content et tout est toujours cool. Tu es toujours cool chez toi. Je dis, mais pourquoi je vais être triste? Vous, pour un rien, vous criez. Pour un rien, vous prenez, vous faites des sittings pour faire des grèves. Moi, je n'ai pas besoin de faire grève. Ma vie ne dépend pas de mon travail. Ma vie ne dépend pas de mon salaire. Je vais terminer avec un petit témoignage. Je vais vous faire ce témoignage-là debout. Levons-nous. Comme ça, on va finir. Alléluia. Ce mois-ci, j'ai des difficultés financières difficiles. Très terribles. C'est des difficultés difficiles. Alléluia. Au point que quand j'ai regardé mon bulletin de salaire, j'étais scandale choqué. Ça veut dire que j'étais scandalisé et choqué en même temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les impôts. En fait, il y a une partie que j'ai payée, une autre partie a eu des prélèvements rejetés. Donc, ils ont fait le cumul, ils ont dit qu'on ne veut plus rien négocier, on te prend tout et à la source. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, ils ont tout pris à la source. Je fais comment pour régler les factures, Seigneur? Je fais comment pour déménager, Seigneur? C'était compliqué. Alors, j'ai mis tout entre les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu pourvoiras. Et je vous assure, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Pour qu'aujourd'hui, mes factures soient payées. Pour qu'aujourd'hui, j'ai pu déménager. Et avec ma famille, on a dormi aujourd'hui pour la première fois dans notre nouvelle maison. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Dans la suite pastorale. Alléluia. On a tellement dormi, c'était tellement beau le sommeil. Quand je me suis réveillé, c'était 8h30. J'ai dit, oh, 8h30. Ma femme m'a dit qu'ici, on dort bien. Il n'y a que Dieu qui nous réveille. Alléluia! Et quand le prophète Fletcher est passé là, il est passé là où on habitait là-bas, il nous a dit, je vois que vous allez bientôt déménager. J'ai dit, oh yes. Il me dit, mais là, vous allez partir là-bas. Vous allez être bien. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés financières qu'on a pu avoir ce mois-ci, je n'ai même pas senti la difficulté financière. Je n'ai pas vu passer. Je n'ai pas vu les futurs. Non, Dieu a tellement agi. Je ne sais pas par où et par comment Dieu a agi, mais l'argent est venu. Alléluia. Et j'ai pu réaliser les projets du mois. L'argent est venu. Je ne peux pas t'expliquer comment c'est venu, mais l'argent est venu. Quand il y avait un blocage passé, Dieu ouvre une porte par là. Et j'ai pu déménager. Mais si je n'avais pas gardé l'espérance, je n'aurais pas pu rentrer dans ma maison aujourd'hui. Et quand je suis rentré demander les jeunes, je leur disais, ce qui nous aidait, je suis en train de déménager ici en ce moment. Mais pendant que je déménage, je commence déjà à percevoir quelque chose à venir. Je commence à voir déjà que nous ne resterons pas très longtemps ici. 2 ans, mais 3 ans plus tard, je crois que je vais rentrer dans une maison encore bien plus grande. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une maison que je vais louer. Ça va être notre propre maison. Et quand j'ai dit ça, il y a un frère qui m'a dit, oh, il n'était pas là. Il m'a dit, oh, pasteur. Je vais te rencontrer. Le frère est dans la salle. J'ai fait un songe où j'étais sur une montagne et j'ai vu. Vous étiez en train de visiter un grand terrain. C'était un grand terrain. Vous devez construire une grande maison. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es en train de parler. et m'a dit, si tu as un projet de construction de maison, n'hésite pas, lance-toi. J'ai dit au frère, mais tu sais, j'ai eu un projet, mais j'ai arrêté ce projet parce que les banquiers m'ont dit que je n'ai pas suffisamment de moyens pour m'investir dans ce projet et il faut un second salaire, une seconde. Il m'a dit, mon frère, ce que j'ai vu avec ou sans banquier, tu l'auras. Et je m'attache à cela. Alléluia. Et quand je rentre dans cette maison-là, pour moi, c'est encore petit. C'est déjà même petit, trop petit. Je commence à voir la grande maison qui viendra à moi, à ma famille, avec ou sans banquier, avec ou sans troisième ou deuxième source de revenus, même avec un peu d'argent. Dieu agira et j'aurai cette maison. Alléluia. Je commence à voir la piscine. Oh, yes. Je commence à voir le jacuzzi. Ah, la suite pastorale. Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Sur quoi t'attaches ton espérance ce matin? Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. Et si tu le crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Lève tes mains vers le ciel et glorifie le Seigneur pour cette parole. Bénissons le Seigneur. Prions tous ensemble.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.